Voilà, c'est vrai, Bible temps, c'est officiellement terminé, mais ça fait déjà un moment, que selon le planning, il est terminé. Mais c'est vrai que c'est aussi aujourd'hui qu'on veut en profiter pour remercier les personnes qui les ont soutenus, pour aussi bénir les jeunes. On va le faire tout à l'heure, on va le vivre tout à l'heure ensemble. Et ce matin, j'aimerais vous partager un petit peu, comme disait Esteban, par rapport à l'engagement. Dimanche passé, Florence, elle nous a apporté une pomme, même deux pommes, n'est-ce pas, Josquin? Elle était bonne? Et à l'intérieur de cette pomme, il y avait des pépins. Puis Florence nous a dit, les pépins, c'est la vie. Alors moi, j'ai réfléchi, j'ai eu une idée, je me suis dit, ah ben, je suis le premier à avoir l'idée, c'est la bonne idée, j'ai trouvé le filon. Donc, j'ai pris une pomme, je l'ai mangée, et puis j'ai gardé les pépins. Et puis, ce que je vais faire, je ne sais pas, Florence, toi qui es spécialiste des pommiers, combien de pommes donne un pépin? Bref, ouais. Tu me déçois un peu dans ma proposition que j'allais vous faire, parce que moi, je voyais ces pépins, là, je vais rentrer, je vais les planter, et puis, dimanche prochain, je vous amène toutes les pommes que ça m'aura données. Donc, vous pouvez passer commande après, mais comme j'ai compris, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. C'est dommage. Mais j'espérais tellement. C'est vrai, parfois, dans notre vie, il y a des choix, des décisions qu'on prend, mais puis parfois on ne réalise pas que c'est le début d'une grande aventure, que c'est vraiment le début de quelque chose, qu'il y a bien des choses qui vont en découler. Et puis pour pouvoir avancer, il faut de la persévérance, encore de la persévérance, puis encore plus de persévérance, puis ça ne s'arrête pas, de la persévérance et persévérance. Pour pouvoir tenir notre engagement, pour pouvoir avancer dans notre choix, dans nos décisions. Il faut de la persévérance. Alors aujourd'hui, c'est cette fin officielle du Bibletemps. Donc ce Bibletemps, il a commencé le 22 octobre 2018. Waouh, il y a un bon bout de temps. Et il s'est terminé officiellement le 27 septembre 2020. Donc il y a bien 6, 7, 8 mois qui s'est terminé. Alors, il y a des jeunes qui, comme vous l'avez vu ce matin, ont terminé dans les délais. Ils sont arrivés au bout et ils en étaient vraiment contents. Il y en a eu 3, 4, je crois, qui étaient vraiment dans les temps. Il y en a d'autres qui ont poursuivi. Il y en a d'autres qui ont été vraiment découragés. Puis, j'ai pas osé leur demander où ils en sont aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'était une édition spéciale avec tout ce qu'on a pu vivre. Il y a eu plein de défis. Il y avait 11 participants. Il y avait les parrains, les marraines, il y avait toute l'équipe d'encadrement avec eux. Et on a vécu un début de Bibletemps vraiment motivant. Avec des idées, il y avait des petites cartes qui se mettaient en place, il y avait plein de choses qui se mettaient vraiment en place. Puis on a vécu des expériences qui nous ont vraiment aussi marquées. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a fait les petits films sur Job, les jeunes, c'était déjà Bibletemps, c'était une des premières choses qu'on a faites. On a fait des petits films où vous illustriez la vie de Job. On a vécu le repas de la Pâque avec la famille Pecoraro ici. C'était aussi une super soirée qu'on a vécue ensemble. Et puis, le truc, je crois, le plus mémorable, c'était les 40 ans dans le désert du bois du Petit Château. On a tourné en rond là-dedans, mais je crois que c'est vraiment bien fait remarquer cette fois-là. Hein. Voilà, c'est toutes des choses qu'on a vécues. Donc, on était bien partis. Mais il y a aussi des défis à relever. Suivre le planning, rattraper le retard, ne pas abandonner quand on a vraiment beaucoup de retard. C'était toutes des choses qui étaient là, des réalités. Mais pour l'équipe d'encadrement aussi, garder la motivation quand certains se retiraient. Essayer d'encourager au mieux les jeunes quand on ne pouvait plus les voir pendant toute la période aussi de limitation sanitaire. C'est vrai que quand on a commencé ce défi, on ne s'imaginait pas tout ça. On ne savait pas ce qui nous attendait. Et puis, on ne réfléchit pas forcément toujours à ce que ça va impliquer quand on se lance dans quelque chose. Certains jeunes, surtout les plus motivés, ils voyaient surtout le truc à la fin, quoi. C'est la sortie, on ne l'a encore pas faite d'ailleurs, la sortie qu'on va vivre ensemble à la fin. Ah ouais, alors ça vaut la peine, je vais faire mes 2 ans de Bibletemps pour vivre cette sortie ensemble. Mais il y a tout le reste, il y a toute la réalité. Alors ce matin, j'aimerais m'arrêter sur un texte dans la Bible où il est parlé de s'engager et puis de persévérer. Je ne sais pas s'il y a une parole de Jésus qui vous a marqué, dont vous vous rappelez, et puis qui a été lourde de conséquences pour vous. Il y en a une que j'ai envie de vous partager ce matin. Elle se résume en deux mots, c'est « suis-moi ». Et ça se trouve dans Luc 9, et on va lire les versets 51 à 62. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Ça vous rappelle quelque chose, ça? On a vécu toute une période où on a suivi ce périple de Jésus jusqu'à Jérusalem. Florence nous a fait vivre plusieurs étapes, et ce matin on y retourne. Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme l'a fait Élie ?» Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » C'est un texte qui, au premier abord, nous interpelle. Puis on se dit, mais il est vraiment dur, hein, Jésus. Mais dans la réalité, quand on commence un petit peu à réfléchir, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de ces personnes, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de ces hommes qui ont ce contact avec Jésus ce matin, on va voir que c'est un petit peu différent, les choses. Suivre quelqu'un, c'est prendre une décision. C'est prendre une décision qui aura des conséquences. De quelle manière est-ce qu'on va suivre quelqu'un ? Moi, je me rappelle quand j'avais ma première voiture, il y avait cette période des autocollants qu'on mettait à l'arrière des voitures. Il y en avait un, c'était « Je ne suis pas rapide, mais je suis devant vous. » Franchement, de suivre quelqu'un qui n'est pas rapide quand on est pressé, ce n'est pas toujours évident de rester tranquille, d'attendre de pouvoir les dépasser. Mais voilà, c'était un autocollant et je l'avais mis moi ma voiture. Ce n'est pas pour autant que j'étais forcément très lent, hein, mais voilà. Il y en avait un autre qui disait « Ne me suis pas, moi aussi je suis perdu. » Parfois on suit des personnes sans réfléchir, quoi, sans réaliser que ça nous mène vraiment dans une impasse, que ça nous amène quelque part où on n'a pas à être. Alors ce matin on va parler de suivre Jésus. Qui veut suivre Jésus ? Qui veut suivre Jésus ? Qui veut devenir un disciple de Jésus ? Qui veut devenir un disciple accompli, celui que Jésus veut, celui qui désire que nous soyons. Ça nous fait déjà un peu plus réfléchir tout d'un coup. Hein, parce qu'il veut quelque chose de particulier de ma part. Dans Galates 2, il y a ce verset qui dit « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Ce verset que je viens de lire, il a des conséquences directes si tu as répondu oui à la première question. à cette question, qui veut suivre Jésus? Oui, il y a des conséquences. Oui, il y a un travail à faire. Oui, il y a à avancer. Il y a à persévérer. Il y a à changer. Il y a tellement de choses à vivre. Et même bien plus que ça, la question suivante en lien direct avec la première, qui est d'accord de mourir ce matin? Qui est d'accord de mourir à soi-même? Mourir à son mode de vie? Mourir à certaines relations? À certaines priorités? Aussi ces péchés mignons, ces petits trucs-là qu'on ne pourra jamais nous enlever? Qui est prêt à renoncer à ces choses? C'est ce que Jésus attend de nous, qu'on renonce à toutes ces choses pour que lui puisse vivre en nous, que lui puisse prendre toute la place dans notre vie, dans notre cœur. Alors les trois personnes qui ont ce contact avec Jésus, dont on a lu le texte tout à l'heure à partir du verset 57, elles ont beaucoup à nous apprendre ce matin, je crois. Le premier, au verset 57, qui dit à Jésus, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et je crois que notre déclaration, elle doit être celle-là. On doit en arriver à ça, partout où tu iras. Même si je ne sais pas quelle direction je dois prendre dans ma vie, même si je ne comprends pas ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, mais je décide de te suivre partout où tu iras. Vous vous rappelez Jean-François Bussy qui était là il y a quelques semaines, il nous disait, c'est facile de dire à Jésus, dans la généralité de notre vie, je veux te suivre. Il le disait peut-être en d'autres mots, mais c'est ce qu'il voulait dire. Mais dans une situation bien précise de ma vie, quand c'est très concret, c'est un peu plus difficile. C'est moins facile. Alors ce personnage-là, il n'est pas vraiment dit comment est-ce qu'il percevait Jésus, comment est-ce qu'il imaginait ce que ça voulait dire de suivre Jésus. Mais en lisant la réponse de Jésus, je pense quand même que cet homme-là, il se voyait déjà tranquille, nourri, logé, blanchi, je suis à la suite de Jésus, il s'occupe de tout, moi je vais être tranquille, je vais être bien. Et puis c'est la personne qui monte, il monte à Jérusalem en plus, c'est la personne qui prend de l'ampleur, c'est le moment, c'est vraiment le moment de le faire. Et Jésus lui répond, mais tu sais, ce soir je ne sais pas où je vais dormir. Il vient d'être envoyé d'un village samaritain où il voulait s'arrêter. Il lui dit, mais voilà, je ne sais pas où je vais dormir ce soir. C'est la réalité. Tu veux me suivre? Mais c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Tu vas être avec moi dans ces situations-là. Cet homme ne connaissait pas forcément bien Jésus. Et pour pouvoir le suivre, il faut bien le connaître. Pour pouvoir suivre Jésus avec confiance, pouvoir le suivre, voire même aveuglément, ses disciples doivent le connaître, ils doivent connaître les motivations de Jésus. Et dans Luc 6, on voit Jésus qui appelle ses disciples, il les choisit, et puis juste après, dans tout le chapitre, il leur donne plein de directives, des conduites à tenir, qui vont parfois même à l'encontre de la tradition, de ce qui se fait à ce moment-là. Et c'est toute la partie des béatitudes. Heureux les pauvres, heureux les affamés, heureux ceux qui pleurent. Aimez vos ennemis. Et il dira même à un moment donné que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pour être comme son maître, il faut le connaître. Il faut apprendre à le connaître, il faut apprendre à vivre avec lui. Alors une des questions qu'on peut déjà se poser ce matin, comment est-ce que je connais Jésus? Qui est-ce qu'il est pour moi? Jésus venu sur la terre, ce n'était pas un homme comme les autres, il était saint. Depuis sa conception, il a été présenté comme saint, c'est le Fils de Dieu, il est saint. Et Jésus, venu sur terre, c'est la parole. C'est la parole de Dieu incarné. C'est la parole de Dieu venu sur terre. Et Jésus, il est, 1 Corinthiens 13, il est amour. Autant on lit tout ce passage de l'amour. Il est Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est Jésus. C'est la parole de Dieu. Il est la sagesse dans Jacques 3, verset 17. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. C'est ce Jésus-là qu'on est appelé à suivre, à devenir comme lui, à lui ressembler de plus en plus. Et Jésus est aussi notre sauveur. Et il l'a dit dans Luc 9, au verset 56, quand les disciples voulaient faire descendre le feu sur la ville qui ne voulait pas les accueillir. Il leur a dit, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » C'est Jésus-Christ notre sauveur. C'est par lui et en lui. C'est que par lui qu'on peut avancer, qu'on peut grandir, qu'on peut devenir ses disciples. On peut le suivre. Le deuxième personnage, ce deuxième personnage, c'est Jésus qui l'interpelle. Et c'est Jésus qui lui dit, « Suis-moi. » Alors, moi, je veux bien. C'est un petit peu sa réponse. Je veux bien, mais j'ai des choses plus importantes à faire encore avant. J'ai mes priorités. Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Il ne nous a pas dit si son père est déjà mort, si c'est simplement, voilà, mes parents sont âgés, je dois m'en occuper. Il y a plein de façons de voir, hein, il n'y a rien de plus écrit. Mais voilà, c'est ce qu'il dit à Jésus. Moi, je veux, voilà, j'ai mes priorités. Et suivre Jésus, c'est marcher derrière lui. C'est pas aller un petit peu à gauche, à droite, où on veut. C'est marcher derrière lui, suivre Jésus. C'est marcher à son rythme. C'est marcher là où il veut nous faire passer. Pas forcément là où on voudrait aller. Mais en même temps, Jésus, c'est celui qui renouvelle notre force. C'est celui qui est capable de s'arrêter quand on n'en peut plus, quand on doit se reposer, quand on est tombé, il est même prêt à revenir en arrière pour nous relever. Jésus s'adapte à notre réalité aussi. Jésus, il est amour. Jésus, il est là pour nous emmener avec lui. Et ça m'a fait penser à deux exemples que j'ai vécus. Le premier, c'était quand j'étais ado. On faisait des camps de jeunesse en été, de 10 jours. Et puis, on avait fait, à un moment donné, un camp de marche. On avait fait toutes les crêtes du Jura depuis Zurich à Genève. Alors c'était génial, on dormait sous tente la nuit, c'était vraiment super, on a vécu des chouettes moments. Mais il y avait deux filles avec nous, deux filles qui aimaient bien discuter ensemble. Alors quand on marchait, elles discutaient, elles partaient en avant, puis elles blaguaient, elles avaient plein de choses à se dire, je ne sais pas ce qu'elles se disaient. Alors là, mais elles parlaient. Puis à un moment donné, il y avait des petits carrefours, mais elles continuaient toujours le chemin. Puis quand, à un moment donné, on réalisait qu'on détournait, puis plus suivre le chemin qui était le plus grand, le responsable disait, je suis sûr qu'elles ont passé tout droit. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils couraient en avant pour aller les rattraper. Et ça arrivait plusieurs fois, hein, ce n'était pas une seule fois. Mais voilà, suivre quelqu'un, ce n'est pas être devant comme je veux, c'est le suivre vraiment, c'est marcher avec lui. Le deuxième exemple, il est plus personnel, je l'ai vécu dernièrement. Dans cette période de Covid, à un moment donné, moi, quand on a eu le Covid chez nous, moi, j'étais vraiment pas bien. Et puis un soir, dans mon lit, j'arrivais plus à respirer comme d'habitude. Puis bien sûr, là, les idées commencent à venir, on commence à réfléchir, à se poser des questions, à se dire, mais comment est-ce que je vais faire si cette nuit, ça va encore moins bien? Est-ce que je suis encore à la maison demain? Est-ce que je dois aller à l'hôpital? Qu'est-ce que je dois faire? Quoi? Comment? Et en même temps, j'écoutais un message sur YouTube. Et à un moment donné, juste quand j'étais en train de réfléchir à tout ça, puis que je me faisais tous mes films, toutes mes idées, toutes mes pensées, la personne qui prêchait disait justement, marcher à la suite de Jésus, c'est marcher derrière lui, c'est pas aller là où on a envie. Et ça m'a fait un tilt en moi. J'ai réalisé que là, j'étais en train de partir, de me disperser complètement, alors que Jésus me disait, mais non, suis-moi. Et à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé ça et j'ai pu le vivre concrètement. Lui dire, OK Seigneur, moi je te fais confiance. Ça n'a rien changé à la situation physique du moment, mais j'ai été en paix. Et le Seigneur a conduit les choses et j'ai pu lui faire confiance. Mais voilà, c'était une réalité qui était là. Et je pense que bien souvent dans nos vies, on se perd dans des moments comme ça. Quand les choses ne vont pas comme on veut, on s'imagine déjà tellement de choses. Quand nos enfants arrivent en retard à la maison, quand toutes ces situations-là, ces trucs qui nous bousculent un petit peu, on s'imagine plein de choses. Et le Seigneur nous dit, non, non, arrête de te perdre, viens, suis-moi, marche avec moi. Marcher à la suite de Jésus, c'est recevoir sa vision, sa façon de penser, et quelle que soit notre situation. Et surtout, ne pas perdre cette vision. Quoi qu'il se passe dans les détails de notre vie, rester dans cette vision. Le troisième personnage, c'est un petit peu un mélange des deux premiers, je trouve. Un autre dit, je te suivrai. Donc il est un petit peu comme le premier. Seigneur, je te suivrai. Mais il met ses conditions. Mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. Il dit à Jésus, moi j'ai envie de te suivre. Ça me plaît ce que tu vis, ce que tu fais, qui tu es, ça m'interpelle, j'ai envie. Mais en même temps, la vie que je mène, elle me plaît bien. Elle me sécurise. Et puis, je ne peux pas l'abandonner comme ça. Quelque part, je perdrai tous mes points de repère. Te suivre en laissant ce qui est là, tout laisser derrière moi, c'est trop me demander. Et c'est vrai, suivre Jésus, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Vouloir aller prendre congé, c'est vouloir regarder en arrière, s'accrocher à ce qui est derrière, s'accrocher à ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Et ça me fait un petit peu penser à quand on roule avec notre voiture, on a notre fameux grand pare-brise avec le petit rétroviseur. Le rétroviseur, il fait partie du pare-brise. Et puis, c'est drôlement important d'y jeter un coup d'œil régulièrement. Parce qu'il y a des choses, des dangers qui peuvent arriver depuis l'arrière. Il y a des moments où, quand on veut dépasser, on doit regarder ce qui se passe derrière. On doit être attentif à ces choses. Mais dans 2 Corinthiens 5, 17, il y a ce verset qui dit que toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parfois, j'ai l'impression dans nos vies que le passé, ça devient le pare-brise de notre vie. Quelque part, on avance en marche arrière. On a fait demi-tour, on continue dans le bon sens. Mais on se laisse guider par notre rétroviseur, donc ça balance un petit peu à gauche, un peu à droite, parce qu'on a toujours un petit peu réglé le truc. Hein. Puis on voit en grand tout ce qui est derrière nous, tout ce qu'on a vécu. Et puis, on n'arrive pas à avancer comme on devrait. On n'arrive pas parce que c'est scabreux, on ne voit pas bien les choses. Mais combien de fois est-ce qu'on on va en marche arrière? On va dans la bonne direction, mais en marche arrière. Et c'est tellement compliqué. C'est le passé qui revient, on en revit les émotions, on en regrette ce qu'on ne vit plus, toutes ces choses-là. Et je crois que le Seigneur nous appelle à faire demi-tour, à toujours aller dans la même direction, mais avec notre pare-brise, dans sa direction, en voyant tout ce qu'il a pour nous, toutes ces œuvres merveilleuses qu'il a préparées d'avance pour nous, et en gardant un œil sur le rétroviseur, parce que c'est important. Oui, ce que tu as vécu, ce que tu as pu vivre, comme moment décisif dans ta vie, tu ne dois pas les oublier. C'est des jalons. Des jalons qui sont là. Alors ce matin, j'aimerais parler à l'équipe qui a fait Bibleton, mais en même temps, à chacun d'entre nous. Ce matin, tu as réussi à maintenir le cap. Tu es même arrivé au bout dans les délais. Il y en a plusieurs qui l'ont fait. Je suis obligé de te dire ce matin, désolé, mais ce n'est pas ça qui va faire de toi un enseignant à la HET Pro, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça qui va le faire. Ce n'est pas ça qui va te donner une place, même une fonction dans l'Église. ça ne va même pas faire de toi un disciple de Jésus. Alors pourquoi tu l'as fait? Parce qu'on peut lire, cette parole simplement par défi, et puis la lire et la laisser nous passer par-dessus sans qu'elle nous touche. Ce qui va changer quelque chose dans ta vie, c'est ce que la parole de Dieu transforme en toi. C'est ce que ça transforme en toi. Sa parole, elle est vivante. Alors, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit « Dimanche matin, je ne viendrai pas, parce que je ne suis pas arrivé au bout. Je ne suis pas arrivé au bout du programme. » Alors, certains ne sont pas venus. Certains ne sont pas venus parce qu'ils travaillent. Voilà, il y a d'autres choses. Hein. Ils ne sont pas tous absents à cause de ça. Mais il y en a qui sont venus à un moment donné parce que je leur ai dit « Mais non, ce n'est pas le but. On a vécu un bibloton ensemble. Le but, c'est de dire « Voilà, on a vécu ça. La réalité, elle est là. Mais dans cette réalité, le Seigneur, il veut travailler mon cœur. Il m'aide à avancer. Il va me faire avancer. » Et pour ces personnes-là, ça m'a fait penser à Pierre. Pierre, dans la Bible, le disciple de Jésus. Le Pierre, c'était toujours le premier à répondre présent quand il y avait un nouveau défi. Et c'est vrai, ça fait envie de se dire, waouh, je pourrais dire, j'ai lu la Bible en entier. J'aurais fait une fois. Pierre, c'était un petit peu la même chose. Moi, je pense au moment où il était sur le lac avec les disciples de nuit, et puis que Jésus est venu vers eux en marchant sur l'eau. Ils ont tous eu peur. Puis Pierre, il a dit, mais si tu es vraiment Jésus, dis-moi de venir vers toi et je viendrai. Et Jésus l'a appelé et il est allé. Et tout à coup, il a réalisé ce que ça voulait dire. Et puis, il a coulé. Il n'est pas arrivé au but de ce qu'il voulait faire. Il n'est pas arrivé au but. Mais à ce moment-là, Jésus a tendu sa main. Et c'est même écrit dans la version second 21, il l'empoigna. Il a empoigné Pierre, il l'a sorti de l'eau. Il ne l'a pas laissé couler. Ce n'est pas parce que voilà, il s'est loupé dans ce qu'il imaginait faire, dans ce qu'il avait comme vision. Ce n'est pas pour ça que Jésus l'a abandonné. Au contraire, il est allé le rejoindre là où il en était. La même chose quand Pierre a renié Jésus trois fois. Il venait de dire, moi je ne t'abandonnerai jamais Jésus, jamais. C'était un engagement clair, net, précis, je ne t'abandonnerai jamais. Peu de temps après, il le renie trois fois. Et se rappelle que Jésus lui a dit, mais tu me renieras trois fois avant que le coq chante. Et à ce moment-là, c'est Dora qui nous en a parlé il n'y a pas si longtemps, du regard de Jésus sur Pierre. Ce regard plein de compassion, plein d'amour. Il est allé le rejoindre. Et c'est ça qui a permis à Pierre de sortir. De sortir de cette prison dans laquelle il s'était enfoncé lui-même. C'est Jésus qui l'a sorti. C'est Jésus qui allait le rechercher là où il en était. Un regard rempli d'amour, de compassion. Et je crois que c'est ce même regard d'amour, de compassion que Jésus a sur nous aujourd'hui. Si on réalise qu'à une place, on n'a pas tenu parole, on n'est pas arrivé là où on voulait aller, on n'a pas réussi à tenir jusqu'au bout. Il y a ce regard de Jésus plein de compassion. Il y a sa main qui veut venir te secouer, venir t'empoigner ce matin. Je te dis, non, on continue. C'est pas fini. On continue la route. Et finalement, que tu sois arrivé à la fin du bibloton ou pas, c'est pas ça l'important. Le plus important, c'est de te demander ce que sa parole a pu transformer en toi. Est-ce que sa parole va pouvoir transformer encore en toi? Parce que ce n'est pas parce que j'ai lu une fois Bibloton que je suis dispensé de lecture biblique jusqu'à la fin de mes jours. Désolé si c'était le but. Non. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Et Dieu veut nous parler à chaque instant, chaque jour. Qu'on puisse vivre ce Bibloton, mais tous les jours. Pas besoin de deux chapitres ou trois par jour, mais qu'on puisse le vivre tous les jours. C'est un défi d'une vie entière. Laissez Dieu nous parler au travers de sa parole. Et c'est ce qu'on a dit aussi à plusieurs jeunes qui avaient de la peine à suivre. Autant que tu lises moins, mais que tu saches ce que tu lis et que tu prennes le temps de comprendre ce que tu lis, de recevoir ce que Dieu veut te donner, plutôt que de lire simplement pour avoir lu. Et c'est vrai, il ne faut pas qu'on oublie que la parole de Dieu, elle est actuelle pour nous aujourd'hui. On vit dans des temps qui ne sont pas évidents, mais la parole de Dieu répond répond à nos craintes, à nos peurs, à nos doutes face à la période qu'on vit. Jésus nous dit dans sa parole, suis-moi, suis-moi. Quoi qu'il se passe autour de toi, suis-moi. Et il y a tellement d'exemples dans la Bible d'hommes, de femmes qui ont suivi Jésus et puis qui se sont trompés par moments et que Dieu a les relevé, que le Seigneur a relevé, que le Seigneur a sorti de leurs impasses pour les amener là où il voulait vraiment. Mais encore pour ça, faut-il vouloir, faut-il être d'accord de laisser Jésus conduire notre vie? Alors, quelle est ta réponse ce matin? Quelle sera ta réponse? Est-ce que tu vas trouver des excuses pour justifier ta façon de fonctionner peut-être jusqu'à aujourd'hui? Pour justifier ta situation actuelle? Qu'on puisse vraiment prendre le temps ce matin de réfléchir à ce que le Seigneur veut nous dire, à ce que le Seigneur veut remettre en route dans notre vie. J'aimerais simplement demander peut-être à l'équipe Louange de soutenir ce moment, un moment de réflexion, un moment où on peut se placer devant le Seigneur et puis le laisser aussi parler à nos cœurs. Et puis que vous puissiez répondre, qu'on puisse ensemble répondre à ce que Dieu nous montre, à ce que le Seigneur nous montre. Et prendre notre engagement en connaissance de cause. On sait qui est Jésus, on sait ce qu'il fait, ce qu'il est. On sait ce qu'il peut faire dans notre vie. On sait ce qu'il peut faire dans la vie des autres. Vous avez déjà remarqué? On sait ce qu'il peut faire dans la vie des autres. Ah, moi je crois qu'il peut transformer ta vie, qu'il peut transformer, qu'il peut guérir, qu'il peut relever. Mais pour soi-même, c'est le même Seigneur, c'est le même Seigneur. Et il agit pour nous aussi dans notre vie. Alors vraiment, laissons le Seigneur agir et parler à notre cœur ce matin.